Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série tellement importante qui concerne la guérison. Le titre pour aujourd'hui sera « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle ». Oui, le don de Dieu, voilà de toutes les questions la plus importante. Peu nombreux sont ceux qui connaissent ce don par expérience, ceux qui savent comment se l'approprier. Jésus-Christ nous a dit qu'il a la puissance de donner la vie à quiconque vient à lui. Les uns nous disent « Le Christ est ici, il est là, ils adhèrent à notre Église ». Quelle chance que nous avons! Abandonnez vos mauvaises habitudes et visitez les malades, soulagez les pauvres, bâtissez des temples, fondez des institutions chrétiennes et tout ira pour le meilleur du monde. Tout cela n'est pas faux, mais ce n'est pas en faisant tout cela que nous aurons un salut meilleur ou de première classe. Non, 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 ce n'est pas par des œuvres de justice que nous sommes sauvés, mais par la miséricorde de Dieu, oui, par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous, et ceci par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre merveilleux Maître, notre Roi. Tite, chapitre 3, versets 5 à 6. Donc, les Juifs ont demandé un jour ce qu'ils devaient faire pour faire les œuvres de Dieu. Leur religion consistait d'œuvres extérieures. Ils voulaient avoir la vie par leurs propres efforts. Jésus-Christ leur dit « Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Donc la condition indispensable, chers amis, c'est la foi réelle, la foi saisit Dieu, et Dieu la bénit et sauve par sa grâce et par sa miséricorde et par sa puissance. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Beaucoup de gens se croient meilleurs quand ils ont fait une bonne action. Mais là n'est point le salut. Oh non! Bien que sincère, on peut être trompé par un faux enseignement et s'endormir dans une sécurité charnelle. Donc, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don fait à l'âme qui le cherche. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus un don, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous l'acquérez avec de l'argent, par exemple, ce n'est plus tellement un don. Oh, vous êtes altéré, alors venez et buvez de l'eau de la vie gratuitement, sans argent, et sans aucun prix à payer. Voyez-vous, cette vie, ce don de Dieu, cette source d'eau vive est dans le Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie qui demeure en lui. Jésus-Christ dit aux scribes et aux pharisiens qui faisaient grand cas de leur foi, et sans compter de leurs œuvres, de leur connaissance des saintes Écritures, eh bien Jésus-Christ leur a dit, vous croyez avoir la vie éternelle, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous faites profession de garder la loi de Moïse. Et si vous le faisiez, si vous preniez vraiment au sérieux la loi de Moïse, elle vous conduirait à moi, qui suis la source de l'eau vive. Mais voyez-vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Ils sont donc très nombreux, oh oui, tous ceux qui croient comme eux pour obtenir la vie après la mort, mais ils bâtissent sur le sable et grande sera la ruine de leur maison. Voyez-vous, la Samaritaine, elle est venue au puits de Jacob, rappelez-vous. Elle est venue avec sa cruche, elle est venue pour chercher de l'eau. Or, Jésus attira son attention sur l'état de son âme. Il lui montra qu'elle vivait dans le péché, dans l'adultère, et il lui offrit une eau qui étancherait sa soif pour toujours. Non pas qu'elle n'aurait plus jamais soif d'eau naturelle, bien entendu, mais elle ne désirerait plus vivre dans le péché. La soif des choses coupables serait donc enlevée et elle commencerait à haïr ce qu'elle avait aimé. Toute soif du péché aurait disparu pour toujours. Elle aimerait maintenant son Sauveur et Seigneur, et ses désirs se tourneraient vers Dieu, et toute chose serait faite nouvelle. Jésus-Christ a dit, « Je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Saint Jean, chapitre 6, verset 35. Voyez-vous, quand les canaux de notre foi atteignent le fleuve de vie coulant du trône de Dieu, nous sommes vivifiés. Rejetons donc le doute. Rejetons le péché, l'incrédulité, et la source ne tarira jamais. Elle jaillira avec force et débordera autour de nous. La Samaritaine, elle accepta le don avec joie. Elle laissa son vieux moi de côté, derrière elle, et sa cruche. Elle était avec sa cruche au puits de Jacob et elle emporta chez elle la véritable source de la vie. Elle se mit à prêcher Christ dans sa ville, pressant ses concitoyens d'aller à lui, à Christ. Elle a dit, « J'ai trouvé le Christ, j'ai trouvé le Messie, dit-elle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, il m'a dit et il l'a révélé tous mes péchés. Et il a dit, venez à moi. Et elle a répété cela tout autour d'elle dans cette ville. Elle a crié, venez à lui. Venez voir le Christ qui va vous sauver et vous guérir. Quand nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ, nous parlons une langue nouvelle. Nous parlons du vivant que nous avons trouvé. Il est certain que ceux qui connaissent cette femme, qui l'ont connue, et certains l'ont même connue intimement, eh bien, cette femme que certains commençaient à mépriser et n'auraient pas voulu être vus en sa compagnie. Pourtant, ils sont allés coucher chez elle, en cachette, derrière le dos de leur femme. Mais il était survenu en elle, le Christ. Et là, il y a eu un changement tel qu'il commandait l'attention et le respect, parce qu'ils ont vu qu'elle avait totalement changé, que c'était une nouvelle créature, née de nouveau. Elle a même reçu une nouvelle vie resplendissante, et les rachetés sont donc maintenant audacieux. Elle est devenue audacieuse, non de l'audace ou de l'orgueil, non, non, ce serait du péché l'orgueil, mais d'une sainte et humble audace. Ils ne craignent plus le « qu'en dira-t-on ? » Ils ont goûté à la puissance du monde à venir. Ils aiment les âmes. Ils voient le danger qu'elles courent, le temps qui presse, la nuit de la mort qui s'avance. Et Dieu leur donne un saint courage pour les sauver. Persuadés par la Samaritaine, eh bien, croyez-moi, beaucoup de gens sont venus à Jésus-Christ et ils se sont écriés « Maintenant, nous croyons, non à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Il y a une fille légère, femme légère, à Hambourg, à la Reeperbahn, qui menait une vie, je dirais, avec un peu d'humour, pas très catholique. Excusez, pardonnez-moi de cet humour. Vous avez compris ce que ça veut dire. Eh bien, figurez-vous, cette fille ou cette femme légère qui gagnait sa vie avec son corps, un jour, elle a entendu une prédication pas tellement audible, juste des bribes qui venaient d'une fenêtre ouverte d'un local de l'armée du salut. Elle y est entrée et là, elle s'est convertie. Elle a immédiatement été changée du tout au tout. Et très peu de temps après, elle est devenue la meilleure salutiste, puisqu'elle s'est enrôlée, et qui avait gagné toutes les quantités d'autres femmes de péché et les a amenées à Christ. Ça, pour ainsi dire, personne de très noble, entendons-nous avec cela, dans les hautes estimes de notre civilisation où on regarde les gens selon leur richesse et leur apparence, eh bien, et eux, le plus souvent, n'apportent ou n'amènent peut-être jamais une âme à Christ. Mais cette fille perdue, qui était dans le plus profond de la boue, elle a en quelque sorte changé totalement. C'est la puissance de Dieu qui a fait cela, le Saint-Esprit. Et elle est devenue une militante, elle est devenue, on peut dire, très, très concernée des âmes perdues. Elle avait acquis de la discipline, et on peut dire surtout une vocation en quelque sorte. Et c'est devenu merveilleux, voyez-vous. Et je crois que tous nous pouvons, si nous le voulons, si nous le désirons, nous amener, nous approcher davantage à Christ en lui demandant « Sanctifie-moi davantage, purifie-moi davantage, car je désire être à ton service. » Jésus-Christ a dit « Je suis le pain de vie, je suis celui qui vient à moi. » C'est ce qu'il dit. Je répète, Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi, que ça soit quelqu'un de bas étage ou d'une certaine noblesse, eh bien, n'aura jamais faim. Et celui et celle qui croit en moi n'aura jamais soif. » Saint Jean, chapitre 6, verset 35. Et quand les canaux de notre foi atteignent le fleuve de vie coulant du trône de Dieu, nous sommes vivifiés. Rejetons le doute, le péché, l'incrédulité, et la source ne tarira jamais. Elle jaillira avec force et débordera autour de nous. La Samaritaine, souvenez-vous, elle a accepté le don avec joie, laissant son vieux moi, comme cette jeune femme de la Reeperbahn à Hambourg, elle a laissé son vieux moi derrière elle. Et sa cruche, elle l'a amenée au puits de Jacob. Et elle a emporté chez elle la véritable source de la vie. Elle se mit à prêcher Christ dans sa ville, comme cette jeune femme de la Reeperbahn de Hambourg, pressant ses concitoyens d'aller vers lui, vers Jésus-Christ. « J'ai trouvé le Christ, le Messie, a-t-elle dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, tous mes péchés. Donc, il a dit, venez, viens à moi, viens et je te bénirai, je te changerai, je te renouvellerai, je te donnerai une nouvelle vie heureuse. » Et quand nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ, nous parlons une langue nouvelle. Nous parlons du vivant que nous avons trouvé. Il est certain que ceux qui connaissaient cette femme la méprisaient et n'auraient pas voulu être vus en sa compagnie, les lâches, les crétins, les hypocrites. Ils étaient bien contents de coucher avec elle. Mais il était survenu le Christ en elle, et là un changement tel qu'il commandait l'attention et le respect. Voyez-vous, les rachetés deviennent audacieux, non pas de l'audace ou de l'orgueil et du péché, non, 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 mais d'une sainte et humble audace. Ils ne craignent plus le « qu'en dira-t-on ». Ils ont goûté à la puissance du monde à venir. Ils aiment les âmes. Ils voient le danger qu'elles courent, le temps qui presse et la nuit de la mort qui s'avance. Et Dieu leur a donné un saint courage pour les sauver. Persuadés par la Samaritaine, beaucoup de gens sont venus à Jésus-Christ et se sont écriés « Maintenant, oui, maintenant, nous croyons, non à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ, qu'il est le Sauveur du monde. » Voyez quel réveil et quel résultat provoquèrent le témoignage positif et vivant de cette femme, arrachée par Christ à la souillure du péché. Connaître Christ par oui-dire persuade que l'intelligence, mais un contact personnel, véritable, avec Jésus-Christ, cela change tout. Cela donne la vie. Les habitants de la ville ont cru à la parole de la femme, mais ceux-là seuls qui sont venus à Christ ont pu dire « Nous l'avons vu et nous savons certainement qu'il est le Christ, il est le Sauveur du monde. » C'est donc ici la vie éternelle de te connaître qui ? De te connaître toi, mon Sauveur bien-aimé, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et ceux qui ont cru sont devenus comme la Samaritaine. Oui, ils sont devenus des messagers de la bonne nouvelle. Ils ont obtenu de Jésus-Christ qu'il a pu passer 2 jours avec eux, afin que tous leurs amis ont pu apprendre à le connaître. Donc Dieu soit béni pour les témoignages positifs. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie et son Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh oui, chers amis, je vous prie, recevez la source de la vie pour la répandre à votre tour. Chers amis, la Bible nous dit dans Osée, bon, c'est dans l'Ancien Testament, je suis d'accord, mais notez-le quand même, Osée, chapitre 4, verset 6. Faute de connaissance, et dans la version anglaise et allemande, il est dit « faute de vision, mon peuple périt ». Osée 4, verset 6. Et là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe, chapitre 29, verset 18. Nous voyons donc à travers toute la Bible que lorsque le peuple de Dieu était fidèle, l'Éternel manifestait sa présence par des signes visibles et révélait sa volonté par des visions. Alors la nation prospérait. La crainte de Dieu saisissait les païens, ils étaient vaincus et il disait, il n'y a pas de Dieu semblable au Dieu d'Israël. Alors la cause de l'Éternel triomphait et il était glorifié sur la terre. Mais quand Israël commença à désobéir, l'Éternel a dû cacher sa face. Il n'y avait plus de vision véritable et le peuple commençait à périr. Il allait de péché en péché, substituant à la puissance de Dieu des formes purement religieuses, des reliques, des sacrifices souillés, des fêtes solennelles, des ventes aux enchères, soi-disant pour la bonne cause, des cérémonies pompeuses, et se confier à la sagesse humaine et aux bonnes œuvres. Alors Dieu retirait son esprit et les signes de sa toute-puissance. L'Éternel a dit à la sœur de Moïse, « S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision et lui parlerai en songe. » Et Moïse a dit, « Plût à Dieu que tout le peuple puisse prophétiser. » C'est par plusieurs visions que Dieu a annoncé la venue du Messie et le jour de la Pentecôte, lorsque les effets du baptême du Saint-Esprit ont été perçus par des milliers de personnes. Saint Pierre, l'apôtre, se lava, il se leva au milieu d'elle, tout plein de force et de puissance. Il démontra que c'était là l'accomplissement de la prophétie de Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Tel est l'apanage de tous ceux qui reçoivent l'Esprit Saint de Dieu. La vision de Corneille, elle a ému tous ceux de son entourage. La nouvelle se répandit qu'un serviteur de Dieu viendrait pour les instruire dans la vérité. Il a fallu 4 jours à l'apôtre Pierre après sa vision pour se rendre chez Corneille avec les frères juifs. Ils le trouvèrent entouré de ses parents et de ses amis. Et tous avaient abandonné leurs travaux et s'étaient réunis, s'attendant à quelque chose de très grand de la part du Seigneur. Et ils ne furent pas déçus, car le Saint-Esprit lui-même est descendu sur eux, et ils ont commencé à parler de nouvelles langues, et ils ont donc glorifié Dieu. Ce ne fut pas l'action de Pierre, de l'apôtre, mais non, ce fut celle de Dieu qui agissait à travers, par l'apôtre Pierre. Et donc son rôle a été d'annoncer la sainte parole, de prêcher la repentance et la foi en un Christ ressuscité, en un Sauveur qui a porté un salut réel, oui, un salut et un Sauveur vivant qui entrait dans leur cœur pour y demeurer éternellement. Donc les voix et la sagesse de Dieu sont une folie pour le monde, mais Dieu les révèle à ses élus. Donc, de nos jours, beaucoup de théologiens appartiennent à la catégorie dont saint Paul disait qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié la force, n'endurant point la sainte doctrine. Étienne n'était pas un apôtre, il n'était pas d'une éducation théologique, mais il était plein de foi et du Saint-Esprit. Il faisait de grands miracles parmi le peuple, et tandis que, sans crainte pour sa propre vie, il défendait noblement la cause du Christ ressuscité, son visage parut à ses accusateurs comme étant celui d'un ange. Le pur évangile accompagné de la toute-puissance du Saint-Esprit, les convainquit de péché, mais voilà, ils ont résisté. Nous pouvons résister. Et là, c'est l'œuvre de Satan. Ils étaient pleins de rage et ils grinçaient même des dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, eh bien, il a vu la gloire de Dieu et il a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Saul était un des étudiants des plus brillants de son temps. Il avait une religion respectueuse des formes reçues de la tradition, mais il se refusait à croire aux visions et aux manifestations sensibles de la puissance de Dieu et irrité, figurez-vous, il est devenu irrité du témoignage d'Étienne. C'est Étienne qui n'avait pas fait de la théologie de haute volée. Il consentit même à sa mort. Et puis il se mit à persécuter les chrétiens. Heureusement, que quelqu'un a fait le halte là, et comme il se rendait un jour à Damas dans ce but pour continuer de persécuter. Voilà que cet homme, qui ne croyait pas aux manifestations visibles de Dieu, il se sentit tout à coup enveloppé en plein midi par une lumière beaucoup plus éblouissante que celle du soleil. Et là, il tomba comme mort. Ce ne fut pas de l'exaltation religieuse, ce n'était pas quelque chose de bizarre ou d'excité ou qu'est-ce qu'il faut dire de bizarre, tout simplement, qui jeta cet homme à terre. Ce n'était pas de l'hystérie, mais ce fut un choc de la puissance céleste. Alors il a fallu ces deux visions, ainsi que celle d'Ananias, pour amener à la conversion ce juif très orgueilleux. Et saisi d'effroi, il est resté là 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Donc, vous avez compris, il était comme aveugle. À la fin, il était vaincu. Et là, il a accepté Christ. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Et il se mit aussitôt, voyez-vous, ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite, il s'est mis à prêcher un sauveur vivant, un sauveur qui est une réalité, montrant aux disciples méprisés qu'il était devenu leur frère, leur ami. Alors l'Église, en paix, marcha dans la crainte du Seigneur, elle se fortifia et elle a pu s'accroître. Et ce furent les résultats de 3 visions. Il est dit, faute de vision, le peuple périt. L'Apocalypse, la Révélation, est un livre merveilleux. C'est une suite de visions. Jésus-Christ apparut en personne à l'apôtre Jean, on peut bien dire Saint Jean. Il lui montra la cité d'or au mur de jaspe. Il lui montra le jour du jugement, le lac de feu et de soufre. Et il lui dit d'écrire tout ce qu'il avait vu et de le donner aux églises qui devaient à leur tour le donner, le propager au monde. Le prophète, oui, on peut dire le prophète, nous déclare que le temps viendrait où celui qui aurait une vision aurait honte de la divulguer. Ce temps est venu, chers amis. La plupart des conducteurs d'église n'admettent aucune manifestation surnaturelle, n'y voyons que d'exaltation religieuse. Comme les Juifs, à mesure qu'ils renoncent à la révélation, ils se contentent de formes mortes, des formes mortes. Et les églises comptent au milieu d'elles beaucoup d'inconvertis. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est forcément sauvé. Non, non, non. Et vous savez, bien sûr, que nous devons faire attention et contrôler les choses. Il y a, dans les derniers temps aussi, Satan qui s'infiltre comme un loup déguisé en brebis et qui peut contrefaire des choses. J'ai vu par exemple des jeunes filles se rouler par terre dans une sorte d'exaltation exagérée, hystérique, parlant dans un drôle de langage qu'ils ont pensé que c'était la glossolalie des anges, mais pas du tout, c'était la contrefaçon. Et là, on doit faire attention. Si une jeune fille se roule par terre, lève les jambes ou se tord comme un serpent, c'est certainement pas du Saint-Esprit. Donc, dans les derniers temps, il y aura un mélange, le mélange de ce qui est saint et de ce qui est mal. Malheureusement. Oui, voyez-vous, le don des visions, il est spécialement promis pour les derniers temps, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 et 18. Et grâce à Dieu, ces jours sont arrivés maintenant. Dieu se révèle par des dons spéciaux, par la guérison et par la plénitude du Saint-Esprit. Des centaines de chrétiens ont eu des visions merveilleuses et partout où ces signes ont confirmé la sainte parole de Dieu, des multitudes sont venues à Christ pour être sauvées. Pendant que l'apôtre Paul priait dans le temple, il tomba en extase et il fut transporté jusqu'au troisième ciel. Si ce fut ou non dans son corps, il ne l'a jamais su vraiment, mais Dieu le savait. Il a entendu des choses merveilleuses qu'il ne pouvait exprimer, mais il savait qu'il avait été transporté par l'Esprit de Dieu. Saint Paul nous dit, si quelqu'un a une révélation, qu'il la communique à l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 30. Chers amis, avant de terminer, je voudrais vous dire simplement, voyez-vous, si la vie de Jésus-Christ avait pris fin au calvaire ou dans la tombe, son œuvre aurait échoué. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont qu'un sauveur qui est mort que leur religion est une religion d'œuvre et de forme, une religion morte et que eux-mêmes n'ont ni vie ni puissance. Jésus-Christ a mis en lumière pour nous tous la vie et l'immortalité par la résurrection. Non, la mort ne pouvait le retenir, bien que tout l'enfer a été ligué contre lui. Des soldats en armes se tenaient près du tombeau. Le sceau du gouverneur romain y fut apposé de crainte que ses disciples ne viennent pour l'enlever. Et la grande bataille s'est livrée, car toutes les armées célestes étaient engagées contre les hordes infernales autour de cette grotte scellée, obscure, où gisait le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur crucifié. Écoutez les démons. Les démons ont dit, nous l'avons et nous le tenons enfin. Où est votre fameux roi? Mais voici, les rôles sont renversés. L'ange rayonnant, il descend, il roule la pierre et s'assied dessus. Les soldats tombent inanimés sur le sol. La terre tremble et la victoire est remportée, car le vainqueur sort du tombeau. Il est vivant. Oui, il est vivant au siècle des siècles et il tient les clés de la mort et du domaine des morts. Les femmes qui avaient été les dernières à la croix, elles sont venues les premières au tombeau. Et l'ange leur a dit, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est plus ici, il est ressuscité. Venez et voyez le lieu où il était couché et allez-vous en promptement, partez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et comme elles s'en allaient avec joie, Jésus-Christ les rencontra et il leur dit « Ne craignez point, mais allez et dites à mes frères que je les rencontrerai en Galilée. » Ce fut donc à elles que les anges et le Seigneur lui-même ont confié le message de la résurrection. Non, il n'est pas mort. Il est réellement ressuscité. Louons donc l'Éternel. Nous avons un Christ vivant, une Église vivante et un roi qui vient bientôt. Et croyez-moi, ce que le monde dit aujourd'hui, Gott ist gestorben, Dieu est mort, eh bien vous verrez bientôt que ce n'est pas le cas. Les tombes se sont ouvertes, et ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez recevoir la confirmation par la sainte parole de Dieu, si vous la lisez et si vous la sortez de la poussière de votre cave ou de votre tiroir. Donc, les tombes se sont ouvertes et plusieurs corps des saints qui étaient morts se sont sortis après sa résurrection. Ils sont entrés dans la ville et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Il est du reste dit que plusieurs corps des saints sont sortis, ressuscités. Et nous avons le droit de supposer que c'était des patriarches, que c'était des prophètes de l'Éternel, Abraham, Isaac, Joseph et beaucoup d'autres saints de l'ancienne alliance, Jacob, qui avait marché avec Dieu fidèlement et qui, inspiré par le Saint-Esprit, avait salué par avance le jour de Christ, ainsi que Jean-Baptiste aussi, qui venait de subir la décapitation par amour pour Christ. Oui, Satan avait tenu leur corps captif, certains depuis très longtemps, dans la tombe. Mais voici, avec Jésus-Christ, lui est venu et leur corps captif depuis longtemps dans les tombes. Et là, le jour est venu et la puissance, le puissant vainqueur, car c'est un vainqueur tout puissant qui les a sortis de la tombe. Et voici donc le jour est venu, on peut bien dire le jour est venu et notre puissant vainqueur a brisé les chaînes. Il a brisé les chaînes. Il les a fait passer du domaine de la mort à celui de la vie. Ce n'est pas rien. Et les voyez-vous maintenant s'est libéré, parcourir les rues de Jérusalem en se faisant reconnaître. Oh, nous pouvons tous dire gloire à Dieu qui a ressuscité et qui ressuscite et qui un jour va aussi nous ressusciter et nous donner l'espoir de nous reconnaître les uns les autres. Il est donc monté en haut et il a reçu les dons pour nous, pour les hommes. Jésus-Christ n'a eu de la toute-puissance que après sa résurrection. Et il a apparu à ses disciples rassemblés, il a ouvert leur entendement, il a soufflé sur eux et il a dit « Recevez maintenant le Saint-Esprit ». Et quand il leur a donné sa dernière bénédiction, il leur a dit « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit sera venu en vous et vous serez mes témoins. Toute puissance m'est donnée au ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature, et ces signes vont accompagner tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, ils chasseront les démons en mon Saint-Nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. À la Pentecôte, ils ont reçu l'accomplissement de la promesse du Père, car le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé. Le Saint-Esprit a soufflé en vent impétueux et il est descendu sur leur tête comme des langues de feu. Et ce feu était un signe de l'habitation du Saint-Esprit en eux, et ils ont commencé à parler en langue étrangère, des langues étrangères, selon qu'ils les faisaient parler. Ils sont devenus participants de la nature divine. Ils sont devenus des fils de Dieu par le baptême de l'Esprit Saint. C'était donc le moment de la grande fête juive. Et toutes les nations ont connu alors, ils ont connu qu'ils avaient des représentants qui furent attirés par cette merveilleuse manifestation de la gloire de Dieu. Et tous ont été étonnés, et tous se sont dit les uns aux autres, « Mais ces gens-là, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment donc les entendons-nous parler chacun la propre langue du pays où nous sommes nés ?» Vous avez bien compris, ces langues nouvelles n'étaient pas un charabia incompréhensible et parfois même bizarre, mais ils ont compris, tous ceux qui venaient de très loin, d'autres pays, ils ont pu entendre dans leur propre langue louer le Seigneur. Et après avoir reçu le baptême, les disciples se sont répandus partout pour annoncer la sainte parole. Et le Seigneur a confirmé cette sainte parole par les miracles qui ont accompagné cette sainte parole. Jésus-Christ n'était plus toujours visible, évidemment, puisqu'il est monté vers le Père, mais il a manifesté sa présence par des signes qu'il pouvait percevoir. Et c'est ainsi qu'était confirmée leur prédication, car il y a eu des miraculés, des gens qui étaient guéris. Ça, c'était les signes. Pourquoi a-t-il fait part de ses dons à ses frères et sœurs et à l'Église? Mais tout simplement pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, pour faire des saints, des hommes et des femmes de Dieu. Ces ministres ont besoin des signes qui témoignent de sa puissance en eux. Et donc si les apôtres ont été mis en prison et si leurs vies ont été menacées, ce fut à cause de ces manifestations de la toute-puissance de Dieu. S'ils avaient eu une religion simplement de forme, c'est-à-dire une religion platonique sans aucune puissance, ils n'auraient jamais eu à souffrir. Mais ils ont dit, nous serons fidèles à Dieu et nous prêcherons la sainte parole lors même qu'il faudrait en mourir. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et ils ont dit, « Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta sainte parole avec une pleine hardiesse en étendant ta main puissante afin qu'ils se fassent des guérisons, qu'ils se fassent des miracles, des merveilles par le saint nom de ton saint fils Jésus-Christ. » Et le Seigneur agréa, il agréa leur prière et il agréa leur foi en Dieu, leur courage, et ils annoncèrent la sainte parole avec hardiesse. Dieu a fait des miracles par leurs mains. Ils sortaient d'eux une puissance telle que les malades, sur lesquels l'ombre même des apôtres passait tout simplement, ou ceux même qui touchaient par exemple une partie de leurs vêtements, étaient guéris et que les démons étaient chassés. Chers amis et mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ces dons-là. Ils sont la propriété de l'Église par le Saint-Esprit et il nous a dit de les rechercher avec ardeur. Les dons pour les rebelles. Les rebelles, oui, on peut bien dire, afin que l'Éternel puisse demeurer parmi eux. Oui, pour les gentils, donc les non-juifs, aussi bien que pour les juifs. C'est ce que saint Pierre a compris quand il a vu le Saint-Esprit descendre sur eux à Césarée et qu'il a magnifié Dieu. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin autant que le Seigneur en appellera. Donc, chers amis, louons l'Éternel, mes frères et sœurs, car cette promesse est pour vous ainsi que pour moi. Nous devons être la courroie de transmission par laquelle le feu divin puisse se répandre, qu'il puisse se répandre dans le monde, afin que le Seigneur puisse demeurer parmi nous. Et pour les rebelles également, oh oui, pour les rebelles, ne les laissons pas de côté, qu'ils ne persistent pas, les rebelles, les rétrogrades, dans votre rébellion, car il est dit qu'il y a des dons pour vous également. Donc tombez simplement à genoux, repentez-vous au pied de la croix et recevez le don de Dieu qui est la vie éternelle. Faites valoir tous vos droits, celui d'être fait fils de Dieu, votre droit à l'œuvre parfaite du calvaire et à l'héritage des saints dans la lumière, votre droit afin à tous, pour tous, les dons de l'Esprit-Saint. Et le Saint-Esprit, croyez-moi, peut faire une œuvre préparatoire par degrés successifs, précédant le baptême par lequel il prendra possession soudainement de l'être tout entier. Et comme les apôtres, louez simplement et bénissez continuellement le Seigneur comme eux l'ont fait et assemblez-vous d'un commun accord. Ils croyaient, ils adoraient, ils attendaient et ils reçurent. Et cela est valable pour vous, pour nous également aujourd'hui. Chers frères et sœurs, réjouissez-vous et cherchez et vous trouverez. Prions maintenant ensemble. Prions. Merci Seigneur que tu m'autorises te confesser que j'ai reçu de toi une mesure de foi divine. Oh, merci également que tu es pour nous le grand prêtre de la foi et que nous avons le droit de le proclamer. Merci également que tu nous avertis de rester vigilants car rien n'est acquis une fois pour toujours automatiquement, car l'ennemi a beaucoup plus d'intérêt de s'attaquer avec ses lieutenants à ceux qui sont sauvés que à ceux qui lui appartiennent pour l'éternité. Ainsi, nous te demandons la grâce de nous garder fidèles et vigilants jusque à la fin de notre vie et d'échapper ainsi à une vie éternelle très regrettable, mais où il sera trop tard de changer quoi que ce soit. Merci Seigneur, que c'est par ton ineffable amour et compassion et par ton Saint-Esprit que tu nous dévoiles et fais comprendre toutes ces choses. Amen. Amen.